Nous voici dans la deuxième partie d'Okapi Service. Quel est le rôle d'une mission d'observation des élections en RDC? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service avec Stéphane Mondon. Il est chef adjoint de la mission d'observation des élections de l'Union européenne en RDC. Bonjour Monsieur Stéphane.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Okapi.
Merci à vous.
Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-99-94. Appelez-nous, nous allons vous appeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez-nous vos questions au numéro 099-706-99-41. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook du magazine Okapi Service. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ce numéro sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Mamichou Lusangi coordonne et réalise cette émission et Alain Goy s'occupe de la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de cette deuxième partie d'Okapi Service.
Spéciale élection 2023 sur Radio Okapi. Votre radio diffuse à partir du lundi 20 novembre à 8h30, 15h30 et 20h heure de Kinshasa sur la bande FM et sur les différentes plateformes digitales, les interviews exclusives des candidats à la présidentielle du 20 décembre 2023. Radio Okapi, en route vers les élections pour mieux servir ses 24 millions d'auditeurs sur la bande FM et ses 3 millions d'internautes sur les plateformes digitales en cette période particulière des élections.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Quel est le rôle d'une mission d'observation des élections en RDC? En RDC, depuis l'avènement des premières élections en 2600, il s'observe un mouvement de surveillance citoyenne électorale non partisan qui a collectivement mobilisé la société civile internationale, locale et internationale pour observer les déroulements des élections dans les différents bureaux de vote de 2006 à nos jours. Le but est celui d'engager les citoyens dans les processus électoraux, de décourager la fraude et d'exposer les problèmes et certaines irrégularités ou la transparence pendant les déroulements des élections. Et pour les élections qui se profilent à l'horizon, la communauté internationale et la société civile sont également en train de se mobiliser pour affecter les observateurs électoraux dans les différents bureaux de vote à travers les pays. Et quel est alors le rôle d'une mission d'observation des élections en RDC? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de M. Stéphane Mondon. Nous rappelons qu'il est le chef de la mission, le chef adjoint de la mission d'observation des élections de l'Union européenne. Monsieur Stéphane, dites-nous, qui est-ce qu'on peut considérer comme un observateur électoral d'entrée des jeux?
Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Je voudrais d'abord expliquer qu'une mission d'observation électorale de l'Union européenne est là à l'invitation du gouvernement congolais.
D'accord.
On ne s'invite pas dans le pays, on est invité. Cette mission a été déployée depuis le 7 novembre dans le pays. Nous avons 12 analystes, qui est une équipe cadre, on appelle ça, donc une équipe d'analystes qui travaille sur des sujets électoraux, légaux, droits politiques, technologie électorale, droits de l'homme, etc. Nous sommes assistés par 42 observateurs de longue durée qui sont en cours de déploiement, qui sont arrivés le 17 novembre. Et ils partiront dans 17 provinces du pays pour observer les élections, pas seulement le jour des élections.
17 sur 26, hein?
Du 17 novembre.
Sur 26,
sur 26 provinces, sur 26 provinces. Oui, effectivement. Okay. 17 sur 26 provinces. Et ils vont observer comme ça long terme, donc avant les élections, toute la campagne électorale, mais après les élections aussi, toute la phase de contentieux. Ils seront assistés par 12 observateurs de court terme, qui vont aussi être déployés aux mêmes emplacements. Et nous serons assistés aussi d'une délégation de 7 membres du Parlement européen, qui vont venir pratiquement quelques jours avant le jour des élections. Nous sommes aussi assistés par certains membres des ambassades des États membres et des États associés qui participeront à cette observation électorale. Cette mission, comme je suis le chef observateur adjoint, elle est dirigée par une parlementaire européenne, membre du Parlement européen, Madame Malene Björk, qui a fait un court séjour dans le pays et qui reviendra dans le pays juste avant les élections pour nous aider avec la communication de la mission et avec l'observation et tout le travail de coordination. Nous restons dans le pays jusqu'au 9 janvier. Et nous aurons deux moments importants de communication dans cette mission, donc ce qu'on appelle la déclaration préliminaire, qui est faite deux jours après les élections, donc qui aura lieu le 22 décembre, à travers une conférence de presse dans laquelle la mission donnera une grande partie de ses observations. Et je le rappelle, observations pas seulement du jour des élections, mais de toute la campagne électorale.
D'accord.
En fait, toute l'observation que nous aurons faite
oui.
depuis le jour du déploiement.
Mmh.
Et l'autre moment important, c'est le moment du rapport final. Donc nous reviendrons dans le pays en mars ou avril 2024
mmh.
avec un rapport final très détaillé.
Oui.
Toutes nos conclusions.
Je pense qu'à cette période-là, ça sera la période des contentieux électoraux, certainement.
On espère que le contentieux sera terminé avant,
mmh.
effectivement,
mmh.
mais il y aura peut-être encore des observations
des recours
à faire
et autres, sur les recours et autres. Oui.
Exactement.
Ouais. Ouais.
Mais le point principal de ce rapport final, ce sont les recommandations.
Mmh.
Parce que nous sommes ici pour améliorer le processus électoral mmh. prochain.
Voilà.
Évidemment pour faire nos recommandations et nos remarques sur ce processus,
mmh.
mais dans l'optique du temps long
mmh.
et de l'amélioration des prochaines élections. C'est dans ce cadre-là que nous faisons des recommandations
mmh.
et c'est pour nous la partie la plus importante, évidemment.
On est dans une émission de pédagogie, sensibilisation. Je reviens sur ma question. Quel est le rôle d'un observateur électoral, M. Stéphane ?
Mmh. Mais c'est vraiment de faire une observation indépendante,
mmh.
complète et transparente des élections.
Mmh.
Donc c'est de participer à toutes les phases de ce qu'on appelle le cycle électoral.
Mmh.
Donc généralement l'enregistrement des électeurs, toute la campagne électorale, évidemment le jour des élections qui est crucial,
mmh.
mais il ne faut pas oublier aussi la période de contentieux. Donc on essaye d'observer un maximum de ce cycle électoral. Une mission d'observation électorale ne peut pas, une mission d'observation électorale internationale ne peut pas être là tout le temps. Donc sur cette période restreinte, on essaye d'observer un maximum de choses. Et l'observation internationale, une des valeurs ajoutées, c'est son indépendance.
Mmh.
On est constitué de gens qui ne votent pas dans le pays, donc qui n'ont pas d'opinion politique sur le pays.
Oui.
Et ça garantit notamment notre indépendance. Oui.
D'accord, je comprends. Alors, je voulais savoir, on est en période des campagnes électorales. Est-ce que vous avez déjà commencé à faire les monitorings, à vous documenter sur les déroulements de la campagne électorale? Et quel état de lieu faites-vous de cette première partie, au fait, parce qu'on est en période préélectorale, c'est dans presque trois semaines qu'il y aura élection.
Bien entendu, oui, notre observation des élections a commencé d'abord avec le cadre juridique.
Mmh.
Parce que une des choses que l'on observe, c'est le respect des normes internationales, mais aussi des lois nationales. Donc on a regardé un petit peu le cadre juridique. On est en cours de déploiement de nos observateurs, donc on n'a pas encore vraiment de conclusion à faire sur la campagne électorale qui vient juste de commencer. En plus, c'est vraiment très tôt pour nous pour faire des conclusions, et on peut pas conclure sur des choses qu'on n'a pas encore observées. Mais on voit une campagne.
Ben, vous avez déjà vos informations de première main sur cette période des campagnes électorales.
Bien sûr, on voit une campagne qui a commencé sur les chapeaux de roue avec quelques candidats qui sont plus visibles que d'autres. Évidemment, ça on l'a remarqué, mais on veut faire vraiment une observation sur la totalité de la campagne électorale pour vraiment voir est-ce que certains candidats ont été plus mis en avant que d'autres, est-ce que certains ont bénéficié de moyens supérieurs, et notamment est-ce que le candidat qui est le candidat président a utilisé les moyens de l'État, par exemple, ou est-ce que d'autres ont reçu des financements de l'étranger, par exemple. C'est quelque chose qui fait partie de notre analyse et sur lesquels on donnera nos conclusions lors de la déclaration préliminaire.
Oui, M. Stéphane, dans cette émission, nous donnons également la parole à la population qui nous suit à travers les pays. Donc, nous allons nous soumettre à cet exercice ensemble. Quel est le rôle d'une mission d'observation des élections? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir avec ton numéro 099-736-9941. Appelez-nous. Nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez-nous vos questions, commentaires et suggestions au numéro 099-706-9941. C'est également possible de nous laisser vos commentaires. Hein, de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans les courriels dénommés service@radiokapi.net.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiokapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiokapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
La première vague, nous allons commencer par les tout premiers auditeurs. Hein. Il nous appelle depuis la ville de Lubumbashi. Son nom, c'est Jérémy. Monsieur Jérémy, bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Jérémy, vous êtes en ligne. On vous écoute, à vous la parole. Allez-y. Malheureusement, la liaison s'est interrompue avec Jérémy. Nous allons prendre le deuxième auditeur. Lui, il est à Kikwit. Il s'appelle Bienvenue. Bienvenue, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Marcel, bonjour à tout le monde.
C'est plutôt Tati qui est au studio. À vous la parole, allez-y, nous parlons du rôle hein, d'une mission d'observation des élections en RDC. Allez-y.
Ok, je crois que je l'avais bien souligné sur votre page Facebook. La mission d'observation électorale, nous savons tous que la période électorale dans presque tous les pays en Afrique subsaharienne est sujette de nombreuses contestations et puis trop de tensions qui se passent. Une mission d'observation a plusieurs rôles, je dirais, à mon sens. Tout d'abord, c'est de certifier la crédibilité des processus électoraux. Comme, vous n'êtes pas sans savoir que chez nous-mêmes, la désignation des animateurs qui régit la centrale électorale pour le moment a été sujet à de nombreuses controverses. Il y avait les gens qui disaient que ces gens-là étaient proches du pouvoir, l'autre qui disait voilà, c'était des personnalités assez nettes. Pour le gouvernement, parce que quoi, les messieurs qui sont notre invité, là, si bien souligné, ils sont là par rapport à une appel du gouvernement. Je me dis, le gouvernement est en train de jouer aussi sa carte de crédibilité parce que demain ou après demain, peut-être, ils ne veulent pas que les animateurs qui seront ici de cette élection puissent être contestés. Parce que nous savons tous qu'après les élections, il y aura des contestations électorales. Mmh. Il y a des fois, la crédibilité des animateurs ou des élus dépend aussi de la manière dans laquelle les élections ont été tenues. Vous voyez, je prends l'exemple de 2018, il y avait ici un programme et notre président de l'autre côté au
Sénat. Il se prononce aussi élu, candidat élu, oui.
Candidat élu, peut-être qu'il va faire des contre-campagnes à l'international. Ça peut jouer sur non seulement la réputation des élus, mais aussi sur la réputation du pays, parce que nous savons tous un pays où la paix ne règne pas, les investisseurs aussi ne viennent pas. Les élections, entre guillemets, elles sont passées, ou elles doivent se passer dans de très bonnes conditions, où il y a les observateurs nets, invités là, si bien souligné, ne sont pas des parties prenantes à l'élection parce que ce sont des personnalités, des nationalités étrangères. Je crois que leur point de vue a plusieurs connotations, je dirais, sur la crédibilité des élus aussi, sur la vision de notre pays, l'état de la démocratie de notre pays.
Oui, monsieur, bienvenue, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, bienvenue. Dites-nous, quelle est ta préoccupation? Allez droit au but, s'il vous plaît. Il y a d'autres auditeurs qui attendent.
Oui, ma préoccupation, c'était juste de dire la mission d'observation électorale est très bien. Nous encourageons que cela soit aussi, nos élections soient observées par une mission d'observation électorale.
Merci beaucoup, monsieur. Bienvenue. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kikwit hein, que vous intervenez. Cette fois-ci, nous allons en Mbandaka pour donner la parole à Kisimba. Kisimba, bonjour.
Bonjour, donc, à tous les invités.
Nous parlons du rôle hein, d'une mission d'observation des élections. Quel commentaire avez-vous à émettre à ces sujets?
Oui, je voudrais juste poser la question à l'invité. L'apport des observateurs lorsqu'il y a corruption ou bien fraude électorale. Parce que si nous voyons en 2018, il y avait des contestations. Quel est leur apport par rapport à ce sujet?
Merci beaucoup, M. Kisimba. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Mbandaka que vous intervenez. Je retourne ici au studio. M. Stéphane, comment répondez-vous au premier auditeur qui a appelé Kikwit, M. Bienvenu?
Tout d'abord, je voudrais le remercier pour ses encouragements, c'est toujours les bienvenus. Votre premier auditeur parlait de validation des résultats. C'est vraiment quelque chose que nous faisons.
Parce que par après, il se pose un problème. L'institution qui a organisé les élections publie les données et les observateurs également d'autres données qui ne correspondent pas avec les données de l'institution citoyenne qui a organisé les élections. Et parfois, c'est une confusion. Et voilà.
Exactement. Donc, plusieurs éléments. Notre mission ne fait pas de compilation parallèle des résultats. Donc à ce titre, nous ne validons pas et nous ne sanctionnons pas. C'est vraiment pas l'objet d'une mission d'observation électorale. Nous sommes vraiment ici pour faire toutes les observations que nous avons à faire sur les élections. Mmh. Bien sûr, des observations qui sont sans doute déjà faites parfois par certains électeurs. Nous avons entendu les contestations sur la liste électorale. Nous avons vu aussi les problèmes de cartes qui s'effacent, par exemple. Et votre second auditeur mentionnait qu'est-ce que nous faisons si on voit de la fraude ou de la corruption.
Des irrégularités.
Exactement. Mmh. Et nous sommes là pour les observer et pour les rapporter. On ne va pas se taire sur des irrégularités ou des fraudes potentielles. Nous rapportons de manière neutre et indépendante tout ce que nous voyons sous forme de conclusion, mais aussi sous forme de recommandation. Comment éviter la prochaine fois qu'il y ait ces événements qui sont apparus pendant ces élections? Et votre premier auditeur aussi mentionnait que nous avons été invités par le gouvernement. Nous avons plus été invités par l'État congolais, en tant qu'État-nation, représentant la nation congolaise, pas comme le gouvernement instance politique. L'Union européenne avait répondu positivement à ces invitations, déjà dans le cycle électoral de 2005, également en 2011, et maintenant en
2018, puis 2023.
Alors 2018, il n'y a pas eu de mission d'observation électorale, mais 2023, voilà, nous sommes là en réponse à une invitation, mais des autorités congolaises.
Oui, mais l'auditeur dit que vous êtes invité pour crédibiliser les données qui seront publiées par la CENI.
Alors là, je suis désolé de contredire le premier auditeur, mais nous ne sommes pas là pour valider le travail de la CENI ou pour valider quels que soient les résultats. La CENI émet des résultats provisoires, la Cour constitutionnelle les valide ou les invalide selon son autorité, mais nous n'allons pas dans un sens ou dans l'autre selon une girouette politique. Nous sommes là vraiment pour observer de manière totalement indépendante et pour faire part de nos remarques et surtout de nos recommandations.
Oui, mais l'auditeur de Kikwit, il a encore révélé, il a dit que votre travail de documentation parfois sème la confusion chez les candidats en liste parce que on l'a vécu ici au pays. La CENI proclame tel gagnant et l'autre dit non, c'est moi également qui a gagné les élections. Donc, et puis ça sème la confusion.
Oui, alors là je le rappelle, nous en tant qu'observation internationale, on ne commande pas sur les résultats. On commande sur le processus, comment on en est arrivé à ce processus et surtout comment est-ce que les électeurs congolais ont pu exercer leurs droits de manière libre, transparente et est-ce que leur expression a été prise
les
en compte.
De, voilà.
Exactement. Est-ce que les résultats sont le reflet de la volonté des électeurs congolais? Nous, c'est vraiment notre préoccupation qu'il n'y ait aucune interférence dans ce circuit entre l'électeur qui met son bulletin dans l'urne et le résultat.
Monsieur Stéphane, on me signale que l'auditeur de Lubumbashi qu'on a loupé, il est revenu, il est en ligne, donc on va lui donner la parole. Jérémy, bienvenue dans Capi Service, bonjour. Ben.
Oui, bonjour Monsieur Tassi, bonjour également à l'invité.
Bonjour.
Je pense que nous saluons la pertinence de ce sujet en ce qui concerne les observateurs, n'est-ce pas, lorsqu'il y a les élections. Je pense que c'est une matière très importante. Vous savez, la crédibilité d'une élection ou des élections dépend aussi de l'affectation des observateurs, parce que les observateurs jouent un rôle. C'est ce qu'on appelle les justes milieux, pour voir comment est-ce que c'est comme des témoins qui doivent voir qu'est-ce qui a été dans la marmite et comment est-ce qu'on a déballé ce qui était dans la marmite. C'est ça. Alors, et là, nous pouvons peut-être donner du crédit à nos élections. Et là où je trouve que ça fait mal, c'est quand, à tout moment, nos propres élections, nous devons recourir à l'expertise extérieure. Bon, je me dis, qu'est-ce que ces observateurs-là internationaux viennent faire dans notre pays? Est-ce que nous ne pouvons pas nous-mêmes nous donner confiance? Chercher, par exemple, les confessions religieuses et placer les membres qui sont de la soit de la société civile, qui jouent un peu ce rôle, afin de jouer juste les justes milieux entre les politiques, ceux-là qui sont comme candidats. Ça, ce serait quand même une bonne chose. Au lieu tout le temps de faire l'expertise extérieure, c'est comme si les Blancs venaient donner des injonctions dans notre propre pays. Et quand ils organisent les élections, est-ce qu'ils ont déjà une fois appelé les Congolais, les responsables congolais, pour aller voir comment est-ce qu'ils organisent les leurs? Non, nous devons quand même à un moment nous émanciper. Nous devons prendre les choses à notre compte. Si nous voulons bien faire les choses, nous devons former des observateurs ici chez nous qui peuvent facilement aller à gauche, à droite. Bon, on n'en disconvient pas parce qu'il y a des candidats qui envoient leurs observateurs pour voir comment est-ce que les choses, les témoins ou quoi que ce soit. Mais là, nous n'en disconvenons pas. C'est que nous voulons que réellement, les observateurs jouent un rôle très capital. Et
oui,
très
mais
important.
Jérémy, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Oui, monsieur.
Nous savons que la société civile et les confessions religieuses également déployent des observateurs électoraux à chaque cycle électoral depuis 2005 à nos jours. Ça, on le sait. Pensez-vous que les observateurs et les électoraux internationaux ont joué un rôle positif depuis l'avènement des élections en RDC, disons de 2005 à nos jours? Est-ce qu'ils ont...
Là où nous disons que ça cloche, c'est lorsque eux-mêmes, les Occidentaux, ont déjà leur candidat fabriqué. Alors, lorsqu'ils envoient ces gens-là, c'est pour préparer déjà un terrain de contestation.
Oui, mais vous le dites, s'il vous plaît, Jérémy, Jérémy, vous dites sur quelle base ils ont déjà un candidat. C'est sur quelle base vous dites ça? Est-ce que vous avez des preuves par rapport à ce que vous êtes en train d'avancer comme argument?
Nous sommes au nous sommes au quatrième cycle électoral et tout ce que nous avons eu à vivre dans ce pays et partout en Afrique nous donne raison sur ce point. Vous savez que nous sommes en Afrique et les élections, les Occidentaux veulent tout le temps jouer l'impérialisme au niveau de l'Afrique. Et ils cherchent à tout le temps avoir la main sur les Africains. Et à tout moment, ils chercheront toujours à choisir préalablement leur candidat qu'ils voudront qu'il passe. Et par conséquent, vous allez voir qu'il y aura toujours des problèmes. Soit si c'est un qui passe, alors on prépare un terrain de contestation. Alors ça, nous ne voulons pas. Nous voulons réellement que le Congo est un pays vraiment aux dimensions africaines. Et nous voulons réellement que nous-mêmes, nous puissions nous prendre en compte nos propres élections. Nous ne pouvons pas tout le temps regarder à gauche, à droite, parce qu'à un moment, nous sommes un pays souverain, nous devons réellement nous en assumer sur tous les plans et pas tout le temps tendre la main vers l'extérieur. Mais il y a combien de gens dans ce pays?
Merci beaucoup, M. Jérémy. S'il vous plaît, Jérémy, on a saisi votre préoccupation. M. Stéphane aura le temps de répondre à tes préoccupations qui semblent être pertinentes. Donc, on va revenir à vous. Et puis, cette fois-ci, nous restons à Lubumbashi pour donner la parole à M. Gloire, à qui on dit bonjour et bienvenue dans Capi Service. Monsieur Gloire, malheureusement, on va essayer de relancer Gloire par les standards. Monsieur Stéphane, comment répondez-vous à Jérémy de Lubumbashi?
Tout d'abord, merci pour cette question, parce que c'est vrai qu'elle est très pertinente. Le fait de voir des étrangers venir dans votre nation pour observer les élections, ça peut être perturbant pour des Congolais ou pour n'importe quel pays. D'abord, je voudrais souligner que nous venons ici, comme nous venons dans beaucoup d'autres pays. J'étais moi-même au Lesotho, mais j'ai observé aux États-Unis, nous observons aussi en Europe. Les pays européens sont également observés par d'autres pays européens. J'ai vu aussi des Congolais de la diaspora participer à ces missions d'observation dans les pays européens. Donc le fait d'être observé ne veut pas dire que...
Vous avez la même mise sur le déroulement des...
Et bien au contraire, ouais. Parce que nous avons une méthodologie qui est publique, qui est accessible sur Internet. Tous les documents sont publics et ouverts, et un de nos critères pour observer, c'est de rester extérieur au processus et de ne pas avoir d'influence sur le processus. Et ça fait vraiment partie de la formation qu'on donne à nos observateurs internationaux. Vous ne devez en aucun cas intervenir sur le processus, perturber les opérations, que ce soit de campagne ou de vote. Et vous ne verrez jamais, et si vous le voyez, rapportez-le nous, un observateur de l'Union européenne essayer d'intervenir ou d'influencer un président de bureau de vote ou un chef de CLCR ou même un membre du bureau de la CENI. Ça, je peux vous garantir que ça n'arrivera pas. Maintenant, l'observation extérieure, la méthodologie, effectivement, nous n'avons pas de candidat. Comme je vous le disais, nous n'intervenons pas dans ce processus, nous ne votons pas, donc nous n'avons pas de candidat préférentiel. Et nous n'intervenons pas non plus sur les commentaires dans les résultats. Nous intervenons sur les processus. Et je voulais aussi rassurer votre auditeur de Lubumbashi que il y a aussi des groupes d'observation nationales qui sont là, qui observent les élections, avec qui nous discutons dans le cadre de l'observation. Nous échangeons parfois quelques éléments d'observation, parce qu'ils ont aussi une observation beaucoup plus étendue que la nôtre. Ils font également des communiqués de presse que nous prenons en compte dans notre analyse. Donc il faut qu'ils soient rassurés que les Congolais aussi observent, non seulement dans son pays, mais également dans le continent. Moi, j'en ai croisé plusieurs dans des missions d'observation, dans le cadre de la SADC, de l'Union africaine, qui font des observations régionales, tout comme les pays européens s'observent les uns les autres et font des rapports qui sont parfois très durs également en Europe. La démocratie, c'est pas un objectif, c'est un cheminement. Oui. Et on doit constamment l'améliorer, et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là.
Et oui, donc c'est depuis une semaine que la campagne a été lancée. Là, on est à la deuxième semaine. Vous avez déjà commencé un travail de documentation. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les recoupements des premières informations sur terrain?
Vous savez, la première semaine n'est pas forcément illustrative de ce qui va se passer tout au long de la campagne. La campagne dure 4 semaines. Différents moyens sont déployés. Comme je vous disais au début de cette interview, on a vu certains candidats étant beaucoup plus visibles que d'autres, bien sûr. Peut-être que ça va se lisser sur la période, parce qu'on connaît les problèmes logistiques aussi du Congo. C'est très compliqué de
la taille du pays, l'enclavement des certaines zones.
Exactement, le manque d'infrastructures, le manque de moyens aériens, etc. La CENI elle-même qui a des difficultés par rapport à ça. Donc c'est un petit peu trop tôt pour vous donner ses conclusions sur la campagne. Mais en tout cas, on encourage tout le monde à participer à cette campagne. On espère qu'elle sera inclusive et pacifique, surtout parce qu'on a vu quelques éléments un petit peu de violence, des gens qui s'agitent un peu. Donc on voudrait vraiment que cette campagne se déroule de la manière la plus pacifique possible et qu'on évite les violences, bien sûr.
On retourne au standard, M. Stéphane, hein, pour donner la parole cette fois-ci à Jack Bissimoua qui nous appelle depuis île Ijoui. Nous sommes là au sud Kivu. Monsieur Jack, bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Jack, est-ce que vous nous recevez? Malheureusement, Jack, on va essayer de relancer Jack. Hein. Jack, vous êtes là? Malheureusement, la liaison n'est pas bonne avec Jack. On va tenter de lui relancer. Et Monsieur Stéphane, vous allez déployer les observateurs sur l'ensemble du territoire national ou ça sera limité dans certaines zones où il y aura élection?
Malheureusement, avec on n'a pas un très grand nombre d'observateurs, comme vous le savez. On a 42 observateurs, donc ça nous fait 21 équipes. Et des contraintes logistiques, on vient juste d'en parler, des contraintes sécuritaires nous empêchent également de la déployer partout. Nous déployons quand même des gens qui ne sont pas du pays, qui ne connaissent pas très bien les conditions de vie sur place. Donc on doit aussi assurer qu'ils puissent faire leur travail dans des bonnes conditions. Donc on a dû réduire un petit peu le nombre d'observateurs. Mais on voudrait s'assurer qu'ils puissent voyager dans d'autres provinces limitrophes pour pouvoir faire une observation compréhensive. Et comme je vous disais, ils seront renforcés par 12 observateurs de court terme qui vont aussi les aider à collecter des informations et à faire une analyse de toute la période électorale, y compris le jour des élections.
Quel est le rôle d'une mission d'observation des élections en RDC? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Le 42-502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone. Par un simple appel au 42-502. Une fois sur le 42-502, vous avez le choix entre différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et Banane Doulée au 323. Le 42-502, c'est Radio Capi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42-502, uniquement pour les abonnés Vodacom.
Dites-nous, Monsieur Stéphane, est-ce qu'on peut avoir une idée sur quelques contraintes liées aux activités que vous réalisez sur terrain?
Bien sûr, la première qui vient en tête, c'est la contrainte sécuritaire, dont le peuple congolais souffre, évidemment. Il y a eu une interview du président de la République qui mentionnait déjà que deux territoires ne pourront pas voter pendant ces élections, ne pourront certainement pas voter, peut-être même un troisième. On avait déjà vu ça se passer en 2018. Évidemment, pour une mission d'observation électorale, tout électeur qui ne vote pas est un petit échec pour la démocratie. Il faut vraiment qu'on ait des élections les plus inclusives possibles, parce que l'objectif, c'est que le plus de Congolais possible puisse s'exprimer dans les urnes pour pouvoir avoir un résultat qui reflète la volonté du peuple congolais.
En dehors des contraintes sécuritaires, est-ce qu'il y a autre chose au niveau de bureau de vote, accessibilité pour suivre les déroulements des votes, les déroulements des activités liées au processus électoral?
J'imagine que vos auditeurs sont bien conscients des contraintes logistiques de ce pays. On rencontre exactement les mêmes quand on veut se déplacer, mais on va essayer d'y remédier le plus possible pour pouvoir faire une observation aussi complète que possible, bien entendu.
On me signale que Jack, Bissimoua de île Ijoui, au site Kivu, est en ligne. Monsieur Jack, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à l'invité.
Oui, nous parlons du rôle d'une mission d'observation électorale en RDC. Quel est votre commentaire ou contribution à ce niveau de l'échange?
Bon, en fait, presque mon co-débatteur de Kivu a essayé de parler tout ce que j'étais en train de vouloir parler, mais j'ai des petites questions que je voudrais demander.
Allez-y, on vous écoute. Posez-le.
Ma toute première question, c'est demander quand est-ce que la République démocratique du Congo se prendra en charge. Ça, c'est ma petite première question.
Oui.
Et ma deuxième question... Oui.
Allez-y, on vous écoute.
Ma deuxième question, c'est demander pourquoi toujours
c'est les Occidentaux qui devaient venir faire le suivi des élections au niveau de la RDC.
Merci beaucoup, M. Bissimoua. Nous rappelons que c'est depuis la province du Sud-Kivu que vous intervenez. M. Stéphane, comment répondez-vous à l'auditeur Jacques du Sud-Kivu?
Voilà, la question est très large, elle dépasse peut-être un peu le mandat de la mission, mais effectivement, quand la République démocratique du Congo va se prendre en charge, au moins au niveau électoral, la République démocratique du Congo se prend entièrement en charge.
Oui, et puis on est dans un contexte de mondialisation, donc aucun pays ne se referme à lui-même, et donc voilà, donc ça se passe comme ça dans tout le pays du monde, là où il y a des élections, il y a des observateurs nationaux et internationaux.
Exactement, et je confirme que tout le personnel de nos missions travaille aussi dans d'autres pays. Nous ne travaillons pas uniquement en République démocratique du Congo. On était tous dans des pays étrangers avant de venir ici. On apporte une expérience aussi internationale. Après, si je veux répondre à votre seconde question, je vais répéter un petit peu la réponse que j'ai faite à votre premier auditeur. Ce ne sont pas seulement les Occidentaux. Vous avez des gens de la région aussi, l'Union africaine qui envoie des observateurs sans doute, la SADC qui a exprimé aussi sa volonté, mais aussi des groupes d'observation locaux. Et je le soulignais, c'est eux qui sont le plus nombreux dans le pays. Donc vous êtes d'abord observés par les Congolais et ensuite par des internationaux. Et vous avez des très grands groupes d'observation nationale qui sont présents sur le pays, avec énormément de personnel, et qui sont d'abord là pour que les Congolais observent les élections congolaises. Et nous le faisons également en parallèle.
Et dans la documentation donnée, vous avancez les dépouillements, les résultats de vos dépouillements en amont de celui de la CENI. Et parfois, lorsque la CENI publie, ça crée confusion. Et voilà, comment est-ce que vous travaillez concrètement?
Alors c'est très bien qu'on soit dans une émission pédagogique où on répète les informations.
Comment ça se passe exactement? Oui.
Exactement. Donc, je voudrais vraiment répéter que nous ne compilons pas à aucun moment de résultats parallèles au sein de la mission d'observation de l'Union européenne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et donc, nous, dans ce cadre-là, nous ne donnerons aucun chiffre, que ce soit avant, pendant ou après. Les chiffres ne sont vraiment pas notre préoccupation. Nous observons vraiment tout le processus qui a conduit les électeurs congolais à voter et tout le processus de compilation des résultats et aussi de contestations qui se font devant les cours et tribunaux congolais.
Oui, mais les tendances qui sont souvent avancées par les acteurs politiques en lice viennent de vos données, au fait, c'est ça la réalité.
Mais nous ne collectons pas de données, donc je vois pas comment est-ce que ces gens-là pourraient argumenter qu'ils possèdent nos données, puisque nous ne collectons pas de données sur les résultats.
Ok. Et sur terrain, comment est-ce que vous allez travailler? Là, on est en pleine campagne électorale. Vous suivez les déroulements ici à Kinshasa ou à travers les pays. Comment est-ce que ça se passe, les opérations sur terrain de votre côté?
Mais nous rencontrons beaucoup d'interlocuteurs, que ce soit des partis politiques, des gens de la société civile, bien entendu la CENI, les différents cours et tribunaux pour voir comment ils préparent la phase de contentieux. Nos observateurs également, quand ils seront déployés, iront aux événements de campagne, que ce soit les grands rallyes, ils rencontreront aussi les candidats localement, mais aussi des membres de la société civile. Et quand on rencontre des candidats, évidemment, ce sont des candidats du pouvoir en place, donc les gens qui veulent se faire réélire, mais également les candidats de l'opposition pour essayer d'avoir une bonne image du contexte politique, mais également des gens de la société civile. J'ai mentionné les cours et tribunaux, les organisations des droits de l'homme, la CENI, au niveau des CLCR, au niveau des antennes, mais également les bureaux de vote, les membres de bureaux de vote, etc., mais également les services de sécurité pour voir comment les élections seront sécurisées. Donc vraiment, nous essayons d'avoir un panel le plus représentatif de tous les participants à ce cycle électoral pour avoir le plus d'informations possibles, pour faire de meilleures recommandations et pour vraiment aider la République démocratique du Congo à avoir de meilleures élections, comme c'est le cas à chaque fois qu'on observe dans tous les pays du continent ou du monde.
Parfois aussi, en cette période, il y a souvent une certaine montée des violences intercommunautaires et puis une certaine manipulation des acteurs politiques pour s'attirer la confiance des électeurs. Est-ce que vous documentez également dans ces aspects des choses?
Bien entendu, et je voudrais dire à ce stade que la violence ne bénéficie jamais à personne, que ce soit dans le contexte électoral ou dans d'autres contextes. Donc dans ce cadre-là, effectivement, nous relevons tous les actes de violence qui soient imputés à un camp ou à l'autre, et nous les compilons pour faire une vraie documentation de ce qui s'est passé pendant la campagne et pour faire de vraies recommandations. Mais une recommandation que je peux déjà faire, c'est que la violence ne sert à aucun candidat et ne sert certainement pas au processus électoral en RDC. Oui.
Et quand vous êtes en train de suivre les processus électoraux, et les 20, il est prévu les élections au niveau présidentiel, national et puis local à certains niveaux. Et, vos données seront publiées après ou avant la clôture de toutes ces activités-là.
Mais comme je vous le disais au tout début, nous avons deux moments où nous communiquons dans cette phase électorale. Nous avons la déclaration préliminaire que nous faisons deux jours après les élections, dans lequel nous faisons beaucoup de commentaires sur la phase qu'on appelle préélectorale, c'est-à-dire toute principalement
cette période de la campagne,
mais également le jour des élections. Qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on pense de ce jour des élections. Donc ça, ce sont des remarques préliminaires. Et ensuite, nous compilons ce qu'on appelle un rapport final, qui prend un petit peu de temps et qui fera l'objet d'une diffusion en mars ou avril 2024, où là nous revenons avec notre observatrice en chef et avec quelques membres de l'équipe cadre pour présenter nos recommandations, que ce soit dans les différents ministères, mais aussi auprès de chacun des interlocuteurs que nous aurons été amenés à voir pendant la phase de l'observation.
Mais est-ce que vous avez une idée sur les recommandations qui ont été émises en 2011, parce qu'en 2018, vous n'étiez pas invité, et comment est-ce que vous voyez l'évolution de ces processus de 2005 à nos jours?
Bien entendu, oui, nous avons repris les recommandations que nous avions faites en 2011. Et il y en a deux où je peux vous dire qu'il y a eu des améliorations du cadre légal, notamment sur la participation des femmes. Le fait que maintenant, les listes législatives qui sont déposées avec plus de 60% de femmes ne payent pas de caution. C'était une des recommandations de 2011, améliorer la participation des femmes à travers cela. Et il y a aussi un meilleur encadrement du vote électronique qui a été mis dans la nouvelle loi de 2022. C'était une des recommandations qui avait été faite en 2011.
Et il y a également la loi portant protection des PAP qui également fait allusion également à la participation civique et électorale de cette catégorie des personnes. Est-ce que vous avez également pensé à cette dimension de choses?
PAP?
Les peuples pygmées autochtones.
Ah oui, bien sûr. Évidemment, l'observation de la participation des minorités est quelque chose qui est très important pour nous, les personnes handicapées, également aussi les personnes déplacées internes. Nous regardons toutes les personnes qui pourraient avoir plus de difficultés que d'autres à participer aux élections et nous faisons des recommandations pour essayer d'améliorer leur accès, que leur accès soit le même que n'importe quel citoyen congolais. Oui.
Et qu'est-ce que vous faites pour assurer un climat de confiance entre les différents acteurs qui sont en lice? Parce que là, on est en période électorale, vous venez comme observateur international, ces acteurs politiques ont quel regard envers vous?
Bon, ils nous voient comme des observateurs, donc ils peuvent être un peu méfiants, mais on a généralement de très bons contacts avec nos interlocuteurs. Ils nous voient comme des acteurs crédibles de l'observation électorale. Ils nous font part de leurs griefs, évidemment. Ils nous donnent des indications sur ce qui pourrait être amélioré, que ce soit pour améliorer la CENI, pour améliorer aussi tout le processus de campagne, le financement, etc. Donc ils nous font part de beaucoup de choses. Et donc pour moi, ce dialogue montre qu'ils nous font confiance dans l'observation électorale. Et c'est quelque chose qui est important pour nous parce que ça renforce aussi notre crédibilité. Et on aimerait aussi que le peuple congolais, en comprenant ce que nous faisons, ait beaucoup plus confiance dans ce qu'on fait, et donc prennent aussi à cœur nos recommandations pour essayer de les porter, et notamment la société civile, qui, eux, restent dans le pays. Ce serait vraiment intéressant qu'ils reprennent les recommandations pour les porter. Et on a souvent des recommandations qui sont assez similaires avec les organisations d'observation nationale. C'est aussi comme ça qu'on renforce la confiance et que vos auditeurs, notamment, qui ont quelques doutes sur notre mission, pourront avoir un peu plus confiance. Et on est très ouvert au dialogue. Ils peuvent venir nous voir et nous faire part de leur manque de confiance et on pourra essayer de dialoguer et de les convaincre.
Oui, mais ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, aussi, les acteurs politiques profitent également de vos observations pour tirer parfois les choses dans leur faveur. Et puis, voilà, et puis ça sème confusion dans la tête des électeurs et de la population congolaise. C'est ça aussi la réalité.
Bien sûr, vous savez, dans ce processus, chacun a son rôle. Nous sommes là pour être indépendants, mais les politiques essayent de rassembler les voix. Donc la critique des institutions ou la critique d'une mission d'observation électorale participe à essayer de recruter des voix. Mais bon, chacun a sa façon de communiquer. Nous restons neutres et indépendants. Après, si notre communication est utilisée à des fins politiques, on le prendra en compte et on essaiera de répondre et de rappeler à tout le monde que nous sommes absolument neutres, indépendants et que nous n'avons aucun candidat préférentiel dans ce cycle électoral comme dans les autres et dans les autres pays de la région et du monde. Ouais.
Est-ce que vous avez mis en place un quartier général ou un numéro vert par lequel les gens peuvent appeler pour vous remonter certaines informations liées aux positions électorales en cette période et pendant les élections?
Vous imaginez bien que si nous avions un numéro vert, nous aurions besoin de beaucoup plus de personnel que ce que nous avons. Donc malheureusement, nous n'avons pas ça. Mmh. Mais nous avons un quartier général à Kinshasa qui est situé à l'hôtel Hilton. Et les gens peuvent venir pour essayer de nous contacter. Mais on les encourage aussi à contacter d'abord nos observateurs de long terme et de court terme qui, eux, sont déployés dans le pays et qui assurent notre relais.
On me signale qu'il y a un auditeur qui est en ligne. Il intervient depuis la ville... d'Ouvira, au sud Kivu. Il s'appelle Tristan. Tristan, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bien, merci. Merci la radio Okapi.
Oui, quel est le rôle d'une mission d'observation électorale? Allez-y, on vous donne la parole, allez-y.
Oui, bien, merci. Je félicite toujours votre opportunité donnée. En fait, nous saluons cette initiative. J'ai une question à poser. Et quels seront les apports quand il y a toujours la fraude électorale? Merci.
Est-ce que tu peux reformuler autrement ta question? Je n'ai pas bien saisi la quintessence de ta préoccupation.
Oui, je dis comme ça. Quels seront les apports lorsqu'il y aura toujours la fraude électorale?
Ok, quel peut être l'apport de l'observation internationale parce qu'à chaque fois, il y a fraude électorale. Ok, merci Stéphane, à vous la parole. Allez-y, comment répondez-vous à Tristan d'Ouvira?
De manière très simple, effectivement, si nous constatons des fraudes électorales...
Vous allez les relever.
Évidemment, nous allons les relever et nous allons les dénoncer dans la communication qu'on fera après les élections. C'est aussi tout l'apport, je dirais, la valeur ajoutée d'une mission d'observation, c'est que s'il y a fraude, évidemment que nous allons le mentionner. Et ça s'est fait dans des rapports précédents, ça s'est fait dans d'autres pays où on a mentionné des irrégularités et surtout on donne les moyens à travers nos recommandations de les éviter de par notre expérience dans l'observation électorale et de par les nombreuses missions qui ont été faites par l'Union européenne dans le monde. On a cette expérience où on peut vraiment dire vous avez ce type d'incident qui est arrivé, voilà comment y remédier.
Et pour les cas précis de la RDC, est-ce que de 2006 à nos jours, parce que là on sera au quatrième cycle électoral, si je ne me trompe pas, est-ce qu'il y a évolution en termes de la transparence dans les processus électoraux? Est-ce qu'il y a des avancées notables qui sont enregistrées?
Mais comme vous l'avez mentionné, c'est que la quatrième fois que ce pays vote de manière démocratique depuis l'époque du 1 plus 4. Mais évidemment, il y a eu des améliorations. C'est un processus compliqué, surtout en RDC où on manque d'infrastructures, on manque de moyens de communication. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2005 et 2011, la taille des bulletins, c'était quelque chose qui était d'une complexité folle et qui ne permettait pas un recomptage. Donc là, il y a eu une amélioration par rapport à ça. On ne voit plus maintenant de bulletins imposteurs. On peut avoir des remarques à faire sur le dispositif électronique de vote, mais il a amélioré le problème que la CENI rencontrait avec la taille des bulletins.
Et les dépouillements de données manuelles, c'était aussi compliqué.
Exactement, et ça durait très tard dans la nuit. Et pour acheminer aussi, ça coûtait énormément d'argent pour acheminer ça au bureau de vote et aussi pour les ramener dans les centres de compilation.
Oui.
Exactement. Donc là, on constate qu'il y a des améliorations au niveau des opérations. Il y avait beaucoup plus d'assistance internationale en 2005 et en 2011 qu'il y a maintenant. On parlait tout à l'heure d'autonomie de la RDC. Je trouve que maintenant, par rapport aux précédents cycles électoraux, la RDC se prend beaucoup plus en charge et se prend maintenant totalement en charge avec des difficultés. Mais quel cycle électoral, que ce soit sur le continent ou dans le monde, ne rencontre pas de difficultés? Donc la RDC en rencontre des propres, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une amélioration depuis le premier cycle électoral jusqu'à maintenant. Oui.
Ok, mais est-ce qu'au niveau de la population, est-ce que de plus en plus aussi elle est en train d'acquérir la maturité électorale?
Bien entendu, au plus vous faites quelque chose, au plus vous acquérez de la maturité. Et j'ai l'impression que, oui, le peuple congolais est de plus en plus habitué à ces élections, fait des critiques de plus en plus fines aussi des élections. Et donc peut-être que les institutions et les politiques peuvent en tirer beaucoup plus d'enseignements. Parce qu'il faut écouter évidemment ses électeurs pour aussi améliorer. Nous ne sommes pas les seuls interlocuteurs du peuple congolais. Mmh. La souveraineté appartient d'abord aux électeurs congolais. Donc ils doivent être écoutés d'abord par leurs dirigeants et puis ensuite nous les écoutons aussi pour transmettre ce message.
Est-ce que vous avez un appel pressant? Parce que là on est presque à la fin de l'entretien. À lancer l'intention des auditeurs qui nous suivent, des décideurs et de la population, des électeurs potentiels, parce que vous êtes venus pour observer les processus électoraux qui va culminer le 20 décembre 2023.
Bien entendu, je voudrais relayer le message qui a été lancé par notre observatrice en chef. Mmh. Les élections, ça doit être un moment de communion démocratique. Ça doit être un moment joyeux. Et surtout, il faut éviter la violence, parce qu'elle bénéficie à personne. Et elle est néfaste d'abord pour le peuple congolais. Donc vraiment, j'aimerais inciter les gens et aussi les politiciens à avoir un discours de paix, de rassemblement, et d'aller en masse aux urnes pour décider du futur du pays.
Merci beaucoup, M. Stéphane Mandon. Nous rappelons que vous êtes chef adjoint de la mission d'observation des élections de l'Union européenne ici en RDC. Merci d'avoir été avec nous dans Okapi Service pour débattre de ces sujets. Et nous espérons que ce n'est pas la dernière occasion. Excellente journée.
J'espère également. Merci beaucoup.